L'esprit critique. Mediapart.
Triste Tigre n'est pas le premier livre publié par Nechino, mais ses deux premiers ouvrages sont demeurés à ce point confidentiels que c'est en utilisant l'adresse mail générale des éditions POL qu'elle a envoyé son texte, qui reçoit un succès public et critique d'une unanimité rare. Pour celles et ceux qui vraiment n'auraient pas suivi, Nechino évoque dans ce livre les viols répétés dont elle a été victime de la part de son beau-père. En 2000, elle a porté plainte et le beau-père a été condamné à 9 ans de prison. On débute immédiatement par un extrait qui donne à la fois le ton et le projet du livre, et c'est vous qui vous en chargez, Lise Wajman.
Raison que j'ai de ne pas vouloir écrire ce livre. 1. Ne pas se spécialiser dans l'écriture sur le viol. 2. A priori, je me méfie des livres qui ont des sujets, et là, difficile d'y échapper. Comment écrire quelque chose de neuf, d'esthétiquement valable, si on est écrasé par le sujet ? 3. J'aimerais faire autre chose. J'aimerais penser à autre chose, avoir une vie qui est un autre centre. 4. Plein de livres chaque année sont écrits là-dessus, par des survivantes et des survivants. Surtout des fictions. Dès que je tombe dessus, je les feuillette. Ils sont parfois très bien écrits, parfois mauvais. Je les lis avec le même œil. Je cherche la description précise des faits. Je veux savoir ce qu'il lui a fait exactement, combien de fois, où, ce qu'il disait, etc. Je déteste l'idée que quelqu'un ouvre ce livre et cherche ce qu'on m'a fait exactement, où on m'a mis la bite, et le referme après sans y avoir rien trouvé d'autre que cette bizarre constatation. 5. Je ne suis pas sûre de pouvoir apporter quoi que ce soit aux victimes, aux proches des victimes, aux agresseurs, ni même à ceux qui veulent mieux comprendre le sujet. 6. Je ne suis pas sûre que ce livre m'apporte quoi que ce soit à moi, en tant qu'être humain, ni en tant qu'écrivaine. 7. Je ne crois pas à l'écriture comme thérapie. Et si ça existait, l'idée de me soigner par le livre me dégoûte. Si ce n'est pour les autres ni pour moi, alors à quoi bon ?
Vous aviez, Lise Wajman, déjà publié un papier dans Mediapart sur ce livre où vous disiez que face à une alternative impossible, au sens où parler, c'est encore être dominé ou dévoré par le sujet parce que le violeur a fait de votre vie et que se taire, c'est s'y résoudre, Triste Tigre élaborait une voie étroite. Est-ce que vous pouvez nous redire de quoi est faite cette voie étroite ?
Oui, au fond, je me disais en relisant le livre pour l'émission, et vraiment, c'est un très beau livre. Et j'espère qu'on peut le dire, parce qu'elle se pose aussi, on en reparlera sûrement, mais elle pose aussi la question de savoir quel sens ça a de qualifier esthétiquement un livre qui parle d'inceste, de cette douleur-là. Mais donc en le relisant, je me disais, au fond, elle tourne autour d'un point aveugle et elle nous le fait voir. C'est-à-dire, on pourrait se dire, ah, ben, on en a lu des livres sur l'inceste. Il y a après Christine Angot, très forte dans la sécheresse de la nomination, après le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande. Qu'est-ce que raconte Nechino? Eh bien, elle tourne autour de la face cachée de la Lune. Au tout début de son texte, elle évoque cette face cachée de la Lune en disant « c'est une abstraction, on a beau nous dire qu'elle existe, nous expliquer de manière rationnelle pourquoi on ne la voit jamais, cela reste difficile à croire. » Et au fond, ce qu'elle fait, c'est essayer d'aborder de biais ce point aveugle de la violence qu'elle a subie, mais aussi ce qui est de toute façon indicible, ce qui ne peut pas sortir de son fort intérieur. Et elle nous le dit d'ailleurs. Et donc on va, c'est comme dans une cosmologie. Enfin, on va tourner autour, graviter autour de ce centre aveugle.
Alors la liste des raisons de ne pas écrire le livre est assez longue. Pourquoi alors elle l'écrit et pourquoi elle réussit à l'écrire ?
Il me semble que ce qu'elle fait de très singulier en écrivant ce livre, c'est qu'elle parle de ce qu'elle qualifie elle-même, en reprenant l'expression à Marie Catskill, l'autre lieu. Un monde où, en fait, victimes et bourreaux sont réunis. Le livre finit sur... Enfin, là, je la cite en disant ça. C'est-à-dire qu'elle parle d'un lieu où on ne sait pas bien ce qui... C'est pas un lieu, en fait, où victimes et, ouais, et bourreaux sont reliés. On ne sait pas exactement ce qui les sépare. Et c'est ça qui est indicible, c'est ça qui n'est pas possible à dire. C'est, je crois, un des drames de la violence, notamment sexuelle. Étant victime, on partage l'intimité de l'agression. Et on devient celui ou celle qui comprend et intuitionne le bourreau mieux que personne. Et ça, c'est insoutenable. C'est insoutenable à lire. Et on sent que, pour elle-même, c'est insoutenable à écrire. En même temps, c'est pour ça qu'il faut l'écrire, parce que ce lieu-là, on n'en parle pas. Et que sans en parler, on ne peut pas le mettre à...
Non, pas à distance, mais à sa juste
distance,
place, en tout cas.
À sa juste place, ouais. J'ai fait un lien avec un film qui va sortir en... en janvier prochain, qui s'appelle « Mon pire ennemi » de Mehran Tamadon. C'est un réalisateur iranien qui vit en France depuis des années et qui, à titre expérimental, a demandé à des réfugiés iraniens de l'interroger comme pourrait le faire un agent de la République islamique. Donc réitérer les tortures qu'ils ont subies, mais en se mettant dans la peau du bourreau. L'un d'entre eux, ayant une connaissance directe des mauvais traitements en question, accepte le défi. Et pendant le tournage, Mehran Tamadon, donc le réalisateur, se rend compte de la perversité même de son projet. C'est ça le film. Quand on regarde ce film, on ne sait pas bien si on est du côté, de quel côté on est, qu'est-ce qu'on est en train de voir, qu'est-ce qui est en train d'avoir lieu. On est en train de vivre ce trouble immense et on est obligé de donner en permanence, en fait, son quoi, son assentiment, même pas en fait, mais on est obligé en permanence de se réinterroger. On ne peut pas être passif en fait en regardant ce film. Et moi j'ai ressenti la même chose en lisant Neige Sino. Je me suis à chaque page, je suis obligée de m'interroger sur ce que je suis en train de lire, sur ce que ça me fait, ce que j'en pense. Elle ne me laisse pas tranquille. Et elle nous parle, je pense, de ce que. On ne peut pas être tranquille avec l'inceste en fait. Elle dit quelque chose comme ça.
Oui, alors c'est ça peut-être le cœur du livre, c'est cette manière qu'elle a de... Enfin, c'est un livre quand même d'une intelligence supérieure qui sans cesse revient sur ce qu'elle vient de dire. Elle commande des fois le paragraphe. Ah bah tiens, revoilà ton petit ton bravache. Ah ben voilà, est-ce que ça, là, j'ai... Pourquoi est-ce que j'étais sarcastique? Est-ce que, pour essayer d'envisager vraiment mais tous les points de vue, tous les problèmes que pose chaque positionnement, et il y a un risque purement d'écriture. Alors, je ne sais pas si on peut qualifier esthétiquement un tel livre, mais en tout cas d'écriture, au sens où on pourrait se dire, bah justement, tout est annoncé, tout est tellement maîtrisé que peut-être, en fait, l'intelligence ne va pas faire une matière narrative. Et quand même, c'est un peu ça. Non, c'est cette manière de, je ne sais pas si c'est l'intelligence, mais en tout cas, cette manière de s'apporter à chaque fois sa propre contradiction qui fait quand même la particularité de cet ouvrage.
Oui, oui. C'est-à-dire que donc, en gros, elle cite Oscar Wilde, « Tout dans le monde est à propos de sexe, sauf le sexe. Le sexe est une question de pouvoir. » Et donc, elle en fait une question de pouvoir aussi. C'est-à-dire qu'elle raconte comment, au fond, son beau-père, comme les dictateurs, pense toujours avoir raison. Et donc, l'endroit qu'elle va trouver, qu'elle va creuser, elle, c'est celui de la réflexion contradictoire, de la pensée chaotique. Et ça peut aller très loin jusqu'à voilà se dire que elle-même elle lirait bien un livre que pourtant elle ne veut absolument pas écrire, par exemple savoir c'est ce qu'on lisait tout à l'heure, savoir les détails sexuels des viols, etc. Et alors grande intelligence du texte, c'est vrai, mais il faut dire aussi, enfin pour pas que ça rebute les lecteurs, que c'est écrit volontairement dans une langue très simple, très accessible, et c'est pas un texte qui veut nous faire violence, au contraire, parce que c'est un texte qui réfléchit toujours à l'endroit depuis lequel elle parle, à la question du point de vue, à ses propres contradictions, c'est un texte qui nous accompagne. C'est justement pas... Elle ne reproduit pas le dispositif pervers, là, pour le coup.
Elle a quand même des phrases dont moi, j'aimerais bien savoir juste ce que vous en avez fait. Je prends la page 52, où elle écrit « Ami lecteur, ami lectrice, ma semblable, ma sœur, voici donc un aveu que je me dois de te faire, car je ne nourris point le désir de te fourvoyer. » Prends garde à mes propos, ils avanceront toujours masqués. Ne prends pas dans ce texte, dans son ensemble, pour une confession.
Ouais, mais ça nous dit qu'elle est toujours responsable. Enfin, c'est un texte très responsable. Enfin, c'est un peu ce que vous disiez en disant, en fait, on ne va pas soudain être mis face à une violence redoublée, perverse, enfin, où elle prendrait du plaisir. Ah, pas du tout, quoi. C'est responsable à chaque instant. Elle va sans cesse, en effet, contre elle-même. Elle a aussi, une grande maîtrise. Elle dit d'ailleurs que même elle le dit dans le texte, quoi, que dans la vie, c'est vraiment quelqu'un qui garde son sang-froid, qui a un tempérament, par exemple, addictif, mais qui ne cède pas aux addictions. Et ce qui est terrible, c'est que cette maîtrise même, elle dit qu'elle le tient de ce qui lui est arrivé. En fait, tout se retourne en permanence. On se dit, bon, tiens, il y a une maîtrise. Et elle dit, évidemment, son beau-père ne l'a pas obligée à être courageuse, mais c'est la réponse, je la cite, qu'elle a choisi d'apporter à l'agression. Enfin, quand même, il faut le dire, ça vient de là. Ma plus grande qualité, celle que j'invoque dans les moments de détresse, quand tout me semble délité, elle vient de ce que j'ai vécu, de ce qu'il m'a fait. Tout mon caractère, c'est lui qui l'a fait, le bon et le mauvais, le génial et le terrible. Je suis comme ci, comme ça, et tout ces ceci et cela dérivent directement de l'enfance que j'ai eue. Et en effet, là, c'est ce point aveugle, enfin, voilà.
Mais alors, parce que on a commencé cette émission en s'interrogeant sur ce qui faisait un succès public et critique, celui de Neige Sino combine les deux. Vous le disiez bien, Lise Wajmann, c'est pas un texte compliqué, difficile, mais ça reste un texte vertigineux. Donc comment est-ce que vous, d'où elle vient cette unanimité sur le livre?
Alors, je dirais de son intelligence, en effet. Après, évidemment, il faut le réinscrire aussi dans le succès de la littérature en première personne aujourd'hui, d'une littérature qui est au bord du témoignage. Et on peut aussi, du reste, Neige Sino s'interroge elle-même sur le fait qu'elle elle-même, elle refuse de faire de la littérature de ce qu'elle dit. Enfin, en tout cas, elle le fait en le refusant. Enfin, donc, il y a en ce moment, je pense, un succès de ce type de texte dans lequel l'auteur, au fond, est le garant et la preuve que ça a eu lieu. Puisque l'auteur ou l'autrice ici raconte quelque chose qui lui est réellement arrivé, qui, je crois, s'inscrit dans un contexte plus large qui est, au fond, on a envie de littérature qui soit les deux pieds dans le réel aujourd'hui et qui nous fasse accéder à ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit pas. Et c'est ce qu'elle arrive à faire dans cette multiplication des contradictions.
Je cite un autre extrait parce que c'est souvent, voilà, comme ça, je pense qu'on peut attraper ce livre. J'ai voulu y croire, j'ai voulu rêver que le royaume de la littérature m'accueillerait comme n'importe lequel des orphelins qui y trouvent refuge. Mais même à travers l'art, on ne peut pas sortir vainqueur de l'abjection. La littérature ne m'a pas sauvé, je ne suis pas sauvé. C'est la phrase qui sert de quatrième de couverture au livre. Et évidemment, c'est pas à nous de juger si Neige Sino est sauvée ou non. Mais est-ce que vous avez quand même pas eu le sentiment qu'elle sort vainqueur de l'abjection ?
Non, je pense que ça, on n'est pas dans un registre où il y a des vainqueurs et des vaincus. Enfin, j'en parlerai pas en ces termes-là. En revanche, ce qu'elle fait avec... Mais ça, elle le dit, qu'il y a quand même de la joie. En fait, elle n'est pas sauvée, mais par contre, elle est traversée de joie. Elle dit, hein, c'est le plus grand... Ce n'est qu'en y mettant des mots que je donne sa plénitude. Cette plénitude veut dire qu'il a perdu le pouvoir de me blesser. Cela me donne peut-être, parce qu'en le faisant, je me débarrasse de la douleur, une grande joie de recoller entre eux les morceaux épars, c'est le plus grand plaisir qu'il me soit donné de connaître. Donc il y a quand même quelque chose comme ça de... Ouais, d'une joie en tonalité mineure quand même, mais qui traverse quand même le livre. Et elle finit là-dessus, sur cette affaire d'autres lieux, par lequel j'ai commencé à parler. Donc cet autre lieu, en fait, elle le tire d'une histoire où un père de 40 ans se fait du souci pour son fils de 13 ans qui commence à jouer aux jeux vidéo... qui commence à commettre donc, des meurtres virtuellement, à regarder des films gore, etc. Et jeune, le père en question avait lui-même été attiré par quoi ? Par l'obscurité, par cet autre lieu. Il avait échappé à la tentation réelle de commettre un meurtre. Et elle écrit, quelque part en lui, il y a l'autre lieu. Non, ça c'est, elle est pas, pardon, elle cite, tout est toujours très complexe quand même. Elle cite Marie Gaskill, donc, qui raconte cette histoire, qui dit, quelque part en lui, donc en ce fils, il y a l'autre lieu. C'est calme pour l'instant, mais je sais que c'est là. Je sais aussi qu'il ne sera pas seul avec ça. Il ne saura pas que je suis là pour lui, car nous n'évoquons jamais le sujet, mais je serai là. Et puis il ajoute, il ne sera pas seul avec ça. Et c'est sans doute ça que parvient, que réussit, peut-être on peut tenter ça, à faire le livre, c'est de faire qu'il y a soudain des solitudes absolues qui parviennent à communiquer.
Peut-être encore une autre phrase qui, moi, m'a frappée, parce que j'ai l'impression que ça résonne avec ce que vient de dire Blandine, où elle dit « Moi, je trouve fabuleux qu'il existe des zones grises dans la vie en général. Ce sont des frontières floues qui permettent les excès, les abus, mais qui sont aussi le terrain de la responsabilité, du choix, du libre arbitre. Elles font le territoire de la littérature, de la philosophie, de la science même. Le monde adulte est souvent gris, de mille variantes de gris, et nos victoires comme nos défaites sont érodées aux angles par le caractère corrosif de ce gris. L'enfant, lui, vit en noir et blanc. » Et voilà, dans cette manière qu'elle a de... Est-ce que c'est ça qui fait quand même la spécificité de ce livre, Lise Wajsman, une grande clarté, mais qui assume au fond ses écrans, ses opacités? C'est-à-dire que là, on a une phrase qui pourrait être un peu définitive, parce que les zones grises, on sait que ça existe aussi entre adultes et que ça peut poser problème, mais elle en fait quelque chose qui ne soit ni manichéen, mais en même temps très clair. Moi, j'ai l'impression que c'est là où j'ai été assez interloqué, de réussir à produire quelque chose qui soit limpide, sans être manichéen, le monde des adultes, le monde des enfants ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous seriez d'accord ?
Ah oui, complètement. Peut-être une façon de le reformuler, c'est j'avais été très sensible dans le livre qu'Hélène Merlin-Cageman avait consacré à la littérature à l'heure de MeToo, à une référence qu'elle avait faite pour expliquer la perversion du pédophile, qui est au fond de feindre de parler en matière de sexualité et d'amour, de feindre de parler la même langue que l'enfant, imposant en fait à l'enfant une confusion des langues. Eh bien, au fond, ce qu'elle parvient à faire, c'est de se détacher de cette confusion des langues qu'on lui a imposée, et donc une clarté dans la langue qui lui permet justement de nommer les endroits, les zones grises, les endroits incertains, la complexité d'un rapport pour autant sans jamais être, en étant toujours très claire sur ce que c'est que la violence pédophile. Il n'y a pas de là, il y a pas
d'ambiguïté. Oui, elle règle d'ailleurs aussi son compte à un certain discours qui prend la liberté sexuelle des années 70 comme responsable au fond de la pédocriminalité en disant non, le pédocriminel trouvera toujours un discours qu'il rendra adéquat à l'acte qu'il fait.
Oui, voilà, il aurait toujours trouvé de quoi se justifier, dit-elle à ce propos. Hein. Donc, je la cite, toutes les crises sont bonnes, ainsi que les absences de crise, tout peut être retourné en leur faveur.
Donc... Non, juste encore question, elle pose à la fin, on a commencé à l'aborder, c'est-à-dire qu'elle dit bien les livres qu'elle ne voudrait pas lire, mais à la fin, elle a quand même cette phrase assez impressionnante. J'ai conscience qu'un livre de témoignage écrit par le violeur serait plus intéressant que celui que vous êtes en train de terminer ou de feuilleter. Moi-même, si je voyais mon propre livre sur un étalage, je ne suis pas sûr que je serais intéressé. En revanche, si mon beau-père écrivait un essai, je serais la première à le lire.
Ça commence aussi comme ça. Car moi aussi, j'ai plus la phrase en tête, mais car moi aussi, ça m'intéresserait d'être dans la tête du bourreau, enfin quelque chose comme ça.
Ouais,
car
moi, lignes.
Ça commence par un car, ouais. C'est marrant aussi. Je n'ai rien à commenter à ça, je trouve que c'est juste.
Alors on peut peut-être commenter non plus le livre et pour finir, mais le fait que ce livre n'ait pas eu le Goncourt après avoir été dans la dernière shortlist des quatre ouvrages prévus. Alors bon, elle a reçu le prix Femina juste avant et le Goncourt aime être le seul à décerner son prix. Mais qu'est-ce que vous comprenez dans le fait que à la fois ce livre a été sélectionné et n'ait pas été choisi? Qu'est-ce que ça raconte plutôt là de la réception du champ littéraire contemporain?
Alors, je ne suis pas sûre qu'il faille parler du Goncourt comme du champ littéraire contemporain, parce que indéniablement, ce livre connaît un grand succès médiatique. Et d'ailleurs, succès médiatique...
Et commercial, par ailleurs.
Enfin, oui, et commercial, ouais. Mais ça, c'est drôle parce que ça aussi, elle l'a anticipé. Je la cite. « J'ai peur que la seule chose qui m'arrive avec ce livre soit d'être invitée à des émissions de radio sur l'inceste où l'on me demandera de résumer dans un langage encore plus simple que celui du livre ce qui y est dit. » Et de fait, c'est bien... Enfin, j'ai pas écouté la totalité des entretiens qu'on a demandé à Nechtino, mais je pense que c'est aussi ce qui lui arrive. C'est-à-dire que le régime médiatique contemporain fait qu'on demande aux écrivains de parler d'eux-mêmes et peu de... plutôt que de leur texte. Quoi. Donc, comme si le livre n'était plus rien qu'un le support d'un storytelling qui profite à l'espace médiatique dans une espèce de marketing du divertissement. Pour les jurés du Goncourt, je crois que c'est autre chose qui est en jeu. Visiblement, ils avaient récompensé l'année dernière un livre écrit par une femme en première personne qui racontait une histoire de deuil.
Une expérience réelle, et ça avait tiraillé le jury.
Et aujourd'hui, visiblement, ils ont souhaité, donc on l'a dit la semaine dernière, récompenser un livre un vrai comme un homme un vrai. Hein. On peut entendre aussi quelque chose de quasi viriliste là-dedans, en pensant sans doute que c'était plus vendeur.
On laissera les lecteurs aviser. Triste tigre de Nechtino, c'est publié aux éditions POL.
L'esprit critique. Mediapart.